Bienvenue dans l'émission Les Plantes Vagabondes, proposée par l'équipe du Plantis à Écuyer, le coworking rural, collaboratif et gourmand du nord de l'agglomération angevine. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil, et avec Christelle, réflexologue, plantaire et relaxologue, aujourd'hui à la console, nous partons en nature à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie, des usages des plantes sauvages. Deux fois par mois, nous dressons le portrait de celles que nous ne nous prenons même pas la peine de connaître avant de les arracher, de celles que nous jugeons indésirables dans nos espaces de vie. Aujourd'hui, nous vous rendons hommage au pourpier Portulaca oleacea, non, c'est pas ça non plus, oleracea, d'être notre invité, une plante de soleil qui s'installe volontiers au pied des murs ou dans les pots sans y être invité. En parlant de portrait, une fois n'est pas coutume, j'ai choisi de lire exceptionnellement le texte de Jacques Lefresne, écrivant sous le pseudonyme d'Élie Reclus, auteur de Physionomie végétale, portrait d'arbres et de fleurs, d'herbes et de mousses, édité en 1870. Merci au passage à l'excellent blog féminin et grenoblois de Luminescence pour cette découverte littéraire. Au cours de cette émission, vous vous laisserez aussi émerveiller par la séquence interview et la chronique Le bonheur est dans les simples, animée par Laura. Allons, il est temps de se laisser bercer par les mots de Jacques Lefresne, écrits il y a 150 ans et toujours aussi authentiques. Pour parler des plantes avec une certaine intimité, je ne suis, je l'avoue, ni botaniste, ni jardinier. Mais de temps à autre, j'ai pu m'échapper loin de la grande ville, dans les prés, dans les sentiers perdus. Plus d'une fois, dans l'ombre de la forêt sacrée, j'ai reposé des yeux fatigués par l'étincelant et bigarré tohu-bohu de la vie parisienne. Au sortir de la bruyante Babylone, l'oreille se délecte au clapotis du ruisseau murmurant, au doux bruit solide des feuilles caressées par le vent du soir. Le cœur irrité par les injustices sociales ou les amertumes de la politique s'apaise volontiers dans l'austère solitude de la montagne. Sans avoir encore appris le langage des oiseaux, je suis de ceux auxquels les arbres disent quelque chose. Dans un bosquet, comme dans un salon, certaines physionomies me vont et d'autres ne me reviennent pas. Telle fleur me plaît, telle autre me laisse froid. Je sais la forte patience du chêne, la grâce délicate du bouleau, l'élégante beauté de la rose, la tristesse du sombre sapin. Et vous les savez aussi, n'est-ce pas? C'est une potagère des campagnes. Dans les chaleurs de l'été, les paysans, amateurs de salades, se régalent de ces feuilles juteuses et visqueuses, légèrement acidulées. Elle appartient à la famille des plantes grasses qui tirent directement de l'atmosphère des sucs abondants. Ce qui lui convient le mieux, c'est un terrain sablonneux et riche, meubles bien fumés, chaudement exposés. Après une belle pluie d'orage, ses branches poussent volontiers des rênes aux aisselles des feuilles. L'ombre lui déplaît, les gelées lui sont funestes. On fit le pourpier originaire des Indes et des Antilles, où il croît spontanément. Il abonde dans la Nouvelle-Grenade, il vit un peu partout et s'est aventuré jusque dans le Spitzberg. Trop lourd et trop gras pour pouvoir s'étaler bien haut, le pourpier préfère ramper sur le sol, dont il confisque une large part grâce à ses tigelles nombreuses qui rayonnent tout autour de lui et s'appliquant étroitement sur le terrain, empêchant tout rival d'empiéter sur son domaine. Positif, dédaigneux, et pour cause des aspirations sublimes vers les régions éthérées, il s'enracine solidement, s'installe dans son fumier. Prenant des biens d'ici-bas tout ce qu'il peut prendre, sa tige s'épaissit et vermillonne. Ses feuilles se gonflent et se font luisantes. On dirait de petites outres pleines de graisse. Bien nourri, bien portant, monté en couleur, l'oreille rouge, le gaillard ne manque pas de progéniture. Au soleil de juillet, les fleurs éclosent à plaisir. Leurs joyeuses bandes illuminent le parterre en un matin. Il y en a de jaunes, il y en a de roses. Les unes sont blanches et tachetées de pourpre, les autres rouges étoilées de blanc. Des 12 à 15 étamines fines, brunes et brillantées de pollen, on dirait de la poudre d'or dans des coupes d'albâtre ou de rubis. Elle s'élève à 1 ou 2 cm à peine au-dessus de sa motte native. Une simple primevère la dépasse de toute la hauteur de sa taille. À cette fleurette, la rose et l'églantine, se balançant au vent, semblent s'être élevées dans la région des hirondelles. Eh bien, Portulaca, de basse extraction, l'humble et modeste Portulaca brûle néanmoins d'un amour idéal. D'amour pour qui ? Pour le soleil, le grand soleil ni plus ni moins. Son existence est un culte constant, une adoration muette vers le dieu du jour. Elle ouvre ses pétales tout grands, elle les étend, les élargit, pour se faire inonder de plus de lumière, pénétrer de plus de chaleur. Sa corolle, grand œil qui contemple le soleil, ne veut voir autre chose. Si un nuage fait ombre, tristement elle se referme. Si un passant s'interpose et qu'elle ne puisse voir plus haut que le front de l'insoucieux, elle s'enveloppe de ses voiles et se replonge dans la nuit. Au moment où elle allait éclore, s'il fait temps couvert, elle attend que l'astre glorieux ait dissipé le triste amas de vapeur. Et si le ciel reste trouble, elle laisse ses boutons se flétrir et s'effeuiller. Elle préfère mourir, elle préfère ne pas naître. On peut donc être humble, pourtant brillante et splendide. On peut encore, comme Portulaca, la fille des tropiques, être modeste et douce, et pourtant aimer ce qu'il y a de plus grand, n'aimer que ce qu'il y a de plus beau. Ainsi s'achève le texte de Jacques Lefrêne. Splendide, non ? Quelle bonne idée de parler du pourpier, invité inattendu de cette rentrée. Car cette plante s'est tout discrètement d'abord manifestée à mon regard en Italie, dodu et joyeux au milieu de pots de fleurs sur une terrasse. Au retour au plantis, il a de nouveau attiré mon attention, étalé au soleil devant la porte, dans les pots, sur la terrasse. J'ai finalement entendu son appel et en souvenir de son apparition italienne, je vous invite à fermer les yeux et prolonger les vacances en écoutant la chanson « Un tranquillo » de Riccardo Del Turco, une exception à la langue française, la star italienne des années 60. Un air entêtant repris ensuite par Joe Dassin, devenu siffler là-haut sur la colline, dans laquelle il parle de fleurs, d'églantines et de pommiers.
Una stanza od un castello, differenza non ce n'è. Una rosa, un ciclamino, sono fiori e niente più. Ma col sole o con la pioggia la mia strada so dov'è, so dov'è.
Per uno tranquillo come me, tutto dentro in fondo, ma che differenza fa? Zai 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 zai.
Quando sete cerco aiuto e mi dicono di no, io per non sentirmi solo, sai amore, penso a te. Che mi importa dell'invidia se l'invidia non è in me? Ma col sole o con la pioggia la mia strada so dov'è, so dov'è.
Per uno tranquillo come me, tutto viene in fondo, ma che differenza fa? L'unico problema è tenerti accanto a me. Spero che ti basti uno tranquillo come me. Zai 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 zai, zai 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 zai, zai 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 zai,
zai 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 zai.
Cette joyeuse pause musicale, nous repartons en nature avec la séquence interview de l'émission, le temps de laisser la parole à Romain Saudubois, co-cinéaste du film Sensible, projeté en Anjou depuis mars. Un voyage au cœur des espaces naturels du département du Maine-et-Loire. Un hommage magnifique au paysage, à la biodiversité du département, et surtout un message positif invitant au respect. Commençons par regarder, observer avant d'agir. Faisons confiance à la nature. Bonjour Romain, enfin je devrais plutôt dire bonsoir. Nous sommes après la projection du film Sensible sur la commune de Montreuil-sur-Loire. Et donc tu es le cinéaste ou le réalisateur.
Un des deux réalisateurs du film.
Et donc la première question c'est quel est ton métier réalisateur? Ça consiste en quoi rapidement, en quelques mots?
Alors effectivement, je suis réalisateur, donc dans ce film, j'ai aussi réalisé les images, entre autres hein, avec mon père, puisque j'ai co-réalisé le film avec mon père, et le film est produit avec ma mère, donc c'est un véritable film de famille, produit par Coco Productions. Et donc mon métier, ça a été d'écrire le scénario de ce film, et puis après de faire en sorte d'arriver à filmer toutes les espèces qu'on voulait filmer, de rencontrer les personnes pour organiser comme c'est le cas là, des entretiens avec elle pour avoir suffisamment de matière pour ensuite raconter l'histoire donc des espaces naturels sensibles de notre département d'Anjou qui sont finalement très riches. C'est ce que j'ai découvert moi dans ce film là, c'est que le Maine-et-Loire a cette particularité de là d'être à la convergence de deux socles géologiques et qu'il y a une grande diversité des sols qui font qu'il y a une grande diversité aussi botanique entre autres.
Et alors, au cours des échanges ce soir, en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est que, en tant que cinéaste, ben, en fait, tu étais pas forcément un spécialiste, un expert. Et donc, la question suivante, c'est qu'est-ce que t'as appris, en fait, le fait de, parce que le film s'appelle Sensible, comme les espaces naturels sensibles du département, et le fait d'être immergé dans ces différents espaces, est-ce qu'il y a quelque chose, une leçon de vie, quelque chose qui est sorti de ça? Qu'est-ce que ça t'a apporté?
Moi, j'étais assez surpris qu'il y ait autant d'espaces inconnus, en fait. On connaît très peu notre environnement proche. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert. D'ailleurs, souvent, quand on part en vacances ou quand on a des moments, on se dit, on veut aller loin, en fait. Et là, j'ai découvert tout un tas de petits espaces qui sont des belles promesses de voyage, parce qu'on peut se retrouver quand même dans des milieux où, à la fois, effectivement, quand on est sensible aux sons, aux odeurs, couleur et qu'on y est à des moments de lumière du soir, etc. On peut vraiment se retrouver transporté. En Maine-et-Loire, il y a des tourbières, il y a la forêt, il y a la Loire, il y a beaucoup de cours d'eau en Maine-et-Loire. Et donc, toute cette diversité des milieux-là m'ont fait voyager. Et après, j'ai découvert que en fait, j'étais ignorant. Quand je regardais un paysage avant, je voyais des champs, je voyais quelques arbres, des maisons. Voilà, je voyais une simplicité. Et au contact des naturalistes qui nous ont beaucoup aidés sur ce film, eh bien, on a découvert toute la complexité des paysages et qu'en fait, la diversité, elle est dans la connaissance et dans l'observation. Il faut prendre le temps d'observer, puis après, il faut ouvrir des bouquins pour se rendre compte qu'en fait, là où on peut marcher sur un mètre carré d'un trottoir un peu enherbé, il peut y avoir de nombreuses espèces, parfois patrimoniales, parfois protégées, et que c'est au contact de ces gens-là que j'ai découvert qu'en fait il y avait tout un tas de choses et que c'est plutôt positif, puisque quand on est attentif à ça et qu'on protège et qu'on est dans cette conscience-là, en fait la nature est capable de recoloniser des milieux qu'on protège assez rapidement. Et donc voilà, après en termes de leçons, nous ce qu'on a souhaité dire dans ce film-là, c'est ouvrons-nous à ce qui nous entoure, allons découvrir. Les ENS sont des lieux qui sont ouverts en partie, pas tous, mais en partie au public, avec des animations, donc on peut s'informer, on peut découvrir ces lieux de patrimoine naturel, mais pas que, hein, parce qu'il y a des ENS qui sont aussi intéressantes des fois pour un patrimoine architectural. Mais là, vraiment, autour de la nature, on voulait vraiment sensibiliser les publics à la nature qui nous entoure. Vraiment, on sort de chez nous, en fait, ne serait-ce que dans notre jardin, dans notre fossé, y a plein de choses. Et donc, on a voulu montrer les différentes manières de gérer les milieux pour montrer qu'il y a des méthodes de gestion qui peuvent être favorables à la biodiversité.
Voilà. Et pour terminer sur les échanges sur ce film, il y a eu pas mal de projections dans des communes différentes, avec des intervenants différents qui pouvaient même parfois être des enfants. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué sur les réactions, parce qu'après il y a des échanges avec les spectateurs. Donc voilà, quel retour tu perçois des personnes qui visionnent le film?
Eh bien, avec José et Colette, on a voulu faire un film positif, et ce qu'on constate à la sortie, c'est que les gens sont comblés de cette énergie-là. En fait, on n'a pas voulu faire un film éco-anxiogène, et les gens après ont envie de, on se détend un petit peu en fait avec ce film-là. On est bercé par les sons, la musique, par les images, par la lumière, et quelque part on est un peu rassuré parce que souvent on nous dit il y a plus rien, on est en train de tout détruire, on tue tout. Et nous, on a voulu faire un petit peu un contrepoint là-dessus et de montrer ce qui est positif. Et bien qu'il y ait évidemment plein de choses encore à faire, hein, il y a tout un tas d'enjeux qui arrivent tous les jours d'ailleurs, c'est loin d'être simple, mais voilà, on a voulu montrer le positif. Et derrière, après, les échanges sont très positifs, les gens ont le sourire, les gens sont heureux de découvrir leur territoire tout simplement, et de voir qu'en fait il y a tout un tas de choses et de personnes qui s'en occupent. Donc c'est à la fois rassurant et en même temps engageant, parce qu'on se dit bah oui, en fait, si on fait rien, bah on peut vite détruire, et en même temps on peut protéger en faisant aussi certaines autres choses. Donc en tout cas, tous les gens qui voient le film il fait un peu l'unanimité, ce film. Pour l'instant, on n'a jamais eu de retour critique, que ça soit des élus, des citoyens, des associations, etc. Le film fait consensus, et ça, on est très heureux de ça, parce que c'était vraiment l'objectif de ce film.
Ben merci beaucoup pour ce témoignage. Ça donne vraiment envie, ceux qui n'ont pas encore vu le film, j'ai envie de dire courez le voir. Donc on n'a pas forcément toutes les dates là, mais on les mettra sur le site de Radio G pour que vous puissiez tous profiter de ce très beau film sur notre département.
Et merci beaucoup.
Merci Romain. J'espère que cette interview revivifiante et positive vous incitera à découvrir ce magnifique documentaire.
Pour ma part, je l'ai vu 3 fois et je ne m'en lasse toujours pas. Alors, courez-y. Il est temps de nous immerger dans la flore de nos jardins avec notre plante invitée de la rentrée, le pourpier. Portulaca oleacera, aussi nommée pourpier potager, est une plante herbacée originaire d'Asie et du bassin méditerranéen. Sa famille botanique, les Portulacées, a pour origine latine porcacla, car les plantes de cette famille ont été données aux porcs dès l'Antiquité. Quant à notre vaillant pourpier, son patronyme est issu du mot pulipedem, qui signifie littéralement pied de poulet. Il faut bien convenir qu'il est plus facile de reconnaître et de consommer des plantes à qui l'on a donné un surnom. Cette appellation surprenante est en lien avec la forme de son feuillage charnu et juteux. Considéré comme adventice annuelle des cultures, et c'est bien dommage, le pourpier s'invite volontiers dans les jardins et au pied des murs. Il s'immisce avec délice le long des bordures de trottoirs, profitant de la chaleur de l'enrobé. Les plantes vagabondes sont vraiment les championnes de l'adaptation à nos habitats pourtant si hostiles à l'expression de la vie. Plante très couvante et toujours verdoyante, elle peut être une alternative au gazon du fait de sa grande résistance au soleil. Avec ses belles feuilles charnues gonflées d'eau ressemblant à celles des plantes succulentes, le pourpier révèle des sols sableux et compactés. Sa composition chimique et la forme de ses feuilles expriment ainsi des tendances inverses dans les sols. Le pourpier est une excellente plante à cuisiner. On en fait de délicieux pestos et il remplace avantageusement l'épinard. Dans une omelette, il a le goût d'asperge. Un régal. Pour en savoir plus, écoutons donc Laura dans la chronique Le Bonheur est dans les Simples nous donner quelques délicieuses idées de recettes.
Le pourpier dans l'assiette, cette incroyable mauvaise herbe. Pourtant, le pourpier est avant tout une excellente salade. Sa saveur est légèrement acidulée. Elle sublime salade composée, soupe, omelette, quiche. Il y a bien 2000 ans que les Persans et les Indiens mangent le pourpier potager. C'est une plante qui préfère les sols retournés ou labourés et les espaces ouverts. Elle se plaît sur les sols nus et travaillés. Vous la retrouverez donc sur vos planches de culture. Elle se multiplie assez facilement par semis spontanés et par marcottage naturel des tiges. Aucune confusion n'est à craindre. Elle se reconnaît très facilement. Toute la plante est comestible. Feuilles, tiges, fleurs, tout y est tendre, charnu et juteux. Légèrement acidulé et succulent. On peut la faire cuire comme légume. Elle peut garnir des chaussons en y ajoutant un pesto et du chèvre. Préparez une omelette en y ajoutant oignons, pommes de terre, feta et pourpier. Le pourpier contient du mucilage. Elle permet d'épaissir également les soupes. On peut la préparer telle les cornichons pour l'utiliser en condiment. Pour cela, installez le pourpier dans un bocal en verre, ajoutez une gousse d'ail en lamelles, ajoutez quelques feuilles de romarin, des graines de poivre, de l'estragon et une feuille de laurier. Couvrir de vinaigre blanc, fermer le bocal et mettre au réfrigérateur. Attendre 10 jours avant de consommer. C'est une recette facile à réaliser et très savoureuse. Les minuscules graines ont été consommées comme céréales bouillies ou bien moulues en farine. Mais leur ramassage exige beaucoup de temps et de patience. Une plante ordinaire donnera plus de 52 000 graines pendant la saison de croissance. En Amérique centrale, le pourpier se vend souvent au marché et sert d'alimentation aux poulets, aux dindes et aux porcs. On considère que c'est un excellent remède contre les vers chez ces animaux. Vous pouvez également réaliser une quiche de pourpier. Pour cela, préparez une pâte brisée. Foncez-en un moule à tarte. Faire revenir oignons hachés à la poêle dans de l'huile d'olive. Quand ils sont fondus, ajoutez le pourpier coupé en morceaux. Laissez cuire quelques minutes, puis étalez sur le fond de tarte. Ensuite, battez un œuf et 125 ml de crème. Ajoutez 200 ml de bouillon de poulet. Versez sur le pourpier. Saupoudrez de fromage râpé et faites cuire 30 minutes à 180 degrés. Le pourpier est très riche en fer, en provitamine A, B et C et en mucilage.
vous avez pu le découvrir avec Laura, le pourpier maraîcher est un excellent légume salade. C'est aussi une plante qui soigne depuis fort longtemps. Anne de Bretagne, dans son magnifique ouvrage sur les plantes intitulé « Les premières heures », précise que ses feuilles sont vermifuges. Elle explique qu'avec les racines en poudre du pourpier mêlées à du miel, on faisait une pâte qui cache les fentes qui se trouvent sur les membres des lépreux. Plante médicinale chez les Égyptiens, dans la Grèce antique, le pourpier est préconisé pour atténuer les inflammations de la peau et des muqueuses. Il agit efficacement contre les maux de gorge et soulage les infections urinaires grâce à ses propriétés diurétiques. Originaire d'Inde, le pourpier est aussi consommé comme légume depuis l'Antiquité et pousse de façon spontanée dans les jardins méditerranéens et ensoleillés. Ses vertus sont telles qu'il fait partie du régime crétois, très médiatisé aujourd'hui par certains thérapeutes, prônant une médecine alternative festive et naturelle. Il suffit pour cela de la consommer tout simplement frite dans l'huile d'olive. L'attractivité du pourpier est liée à sa teneur exceptionnelle en oméga-3, unique dans le règne végétal. Pour mieux comprendre cet intérêt soudain pour cette famille chimique, oméga-3, que l'on retrouve notamment dans certains poissons, il faut s'intéresser à son effet sur notre organisme. Les oméga-3 protègent naturellement et efficacement le système cardiovasculaire. Ils participent à la régulation de la tension artérielle. En outre, sa richesse en protéines végétales en fait un délicieux substitut aux protéines animales. Fini les steaks hachés. Merci les protéines du pourpier. Comme de nombreuses plantes sauvages, le pourpier est riche en éléments minéraux comme le potassium, le magnésium, le calcium et le fer. Ce n'est pas fini. C'est un aliment riche en vitamines du groupe B, C, E et bêta-carotène avec un effet antioxydant exceptionnel. C'est-à-dire agissant comme un élixir de jeunesse. Consommé en forte quantité, il soulage une constipation passagère. En conclusion, manger les herbes au lieu de les arracher ne peut que vous faire le plus grand bien et assurer une pleine santé. Bonne vie à vous en nature. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Vous trouverez toutes les informations, pratiques, liens et références dans le blog de notre site www.leplanty.fr. N'hésitez pas à écouter, réécouter sans limite tous nos podcasts de l'émission Les Plantes Vagabondes sur radio-g.fr. Si vous avez aimé et souhaitez partager ce moment nature, faites passer le message autour de vous. Moi et Christelle, vous donnons rendez-vous dans 2 semaines sur Radio G 101.5 FM pour parler de la valériane. À très bientôt.
Radio G 101.5 FM.
All that other stuff going on, like, can't ever.